explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Je suis prêt.
Le temps d'un bivouac!
C'est l'histoire d'un petit garçon qui, depuis sa Bretagne, sans trop savoir pourquoi, rêve de terres lointaines et exotiques. Sans davantage savoir pourquoi, il se met à se passionner pour les civilisations disparues et les époques révolues. Une fois devenu grand, assez naturellement, il devient paléontologue et se lance dans des expéditions de grande ampleur. Inlassablement, avec ses collègues et ses équipes, il fouille le sol du Tchad à l'Éthiopie, en passant par l'Indonésie, la Chine, la Mauritanie ou encore la Sibérie. Des tonnes et des tonnes de sédiments retournés et à la clé des découvertes majeures, dont le squelette fossile de Lucie, une grande tante australopithèque âgée de 3,2 millions d'années. Aujourd'hui, le petit garçon est devenu un scientifique de renommée mondiale. Il est certainement le paléontologue le plus connu et le plus aimé des Français. Près de 80 ans après le début de cette histoire, la passion d'Yves Coppens est toujours intacte et il prend toujours autant de plaisir à la partager. Nous avions eu le plaisir de le recevoir durant l'été 2018 et cet après-midi, nous vous proposons une nouvelle diffusion de cet entretien. Et en fin d'émission, comme tous les lundis, nous retrouverons Éric Birloez pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, il nous emmènera sur les routes de la mangue. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Marion Lelay et Étienne Bertin, avec à la technique Michel Bézikian. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Quoi sert ce papier ?
Ce papier sert à isoler la dent ou l'os que l'on veut dégager du plâtre que l'on va mettre par-dessus. Ça permet en laboratoire, lorsque la pièce arrive, d'enlever le plâtre très facilement et de ne pas enlever des morceaux d'os ou de dents en même temps que le plâtre. Et en général, ces pièces sont préparées par un encollage d'abord, c'est-à-dire que l'on met un produit qui consolide la pièce, si vous voulez, qui consolide l'os. Et puis, une fois que l'os est consolidé, on le plâtre avec cet intermédiaire de papier pour le transporter beaucoup plus facilement. Ça donne un ensemble qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide.
On en arrive à l'extraction de la dent.
Oui, et c'est toujours le moment délicat. Parce que lorsque cette partie-là est maintenant bien prise en masse, bien tenue, l'autre côté, on y arrive très très doucement, mais l'autre côté n'est quand même pas consolidé encore.
Oui.
Par conséquent, le retournement, c'est la grosse opération, et c'est là qu'il y a des surprises qui peuvent être aussi bien agréables que désagréables. En général, on fait tout pour qu'elles soient agréables.
Nous étions en 1970, Yves Coppens, dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie. Vous étiez en train d'opérer avec une extrême délicatesse. Vous en prenez un soin fou de ces fossiles que vous découvrez dans le sol.
C'est extrêmement important, vous comprenez. D'abord, les fossiles sont rares. Ensuite, quand on les trouve, ils sont porteurs de quantités d'informations. Ils sont porteurs de mémoire, d'une mémoire extraordinaire. Donc, tous les éléments de ce fossile, le moindre morceau de ce fossile, peut être intéressant, peut être important. Et c'est pour ça que, là, de manière un peu grossière, au ciseau à froid, d'après ce que j'entends, mais de manière plus précise encore, sous le microscope, on sculpte littéralement le caillou pour sortir l'os. Et quand on enlève un petit morceau d'os, eh bien, c'est qu'on a mal travaillé et qu'on a perdu une partie de la mémoire du monde.
Vous êtes plus dans votre élément sur le terrain ou dans votre labo, dans votre bureau à Paris ?
Moi, j'aime bien les deux, mais j'adore le terrain. Et dès ma petite enfance, d'abord, j'ai couru le terrain. Et ensuite, quand je suis devenu professionnel, j'ai souhaité en effet avoir une grande partie de mon existence sur le terrain, c'est-à-dire d'aller moi-même chercher les fossiles que je devais étudier.
Et ça, c'est une nouveauté en quelque sorte. Hein. Avant vous, vous avez un peu dépoussiéré la paléontologie, c'est-à-dire avec d'autres évidemment, mais avant vous, il y avait les petites mains qui fouillaient sur le terrain et puis il y avait les savants qui observaient les fossiles sans sortir de leur laboratoire, on peut le dire comme ça ?
Oui, on peut le dire comme ça, mais sans condescendance, parce que ces gens-là, c'était une manière de faire, c'était une manière d'être, et ces gens-là étaient de grands anatomistes. Mais c'est vrai qu'en général, le professeur était quelqu'un qui était assez distant d'abord, qui faisait ses conférences ex cathedra, hein,
ouais.
Et puis que l'on n'interrompait pas, et puis ensuite qui recevait en effet dans son laboratoire les fossiles recueillis.
Avant vous, c'était alors pas plus amateur, mais peut-être plus confidentiel les fouilles. Vous avez participé, vous, à des expéditions, 40, 50 personnes sur le terrain, des chantiers de fouilles gigantesques.
Oui, c'est-à-dire de l'artisanat, c'est devenu un petit peu semi-industriel, quoi, c'est vrai. Ça dépend des moyens que l'on a, et puis ça dépend de la conception que l'on a des fouilles.
Vous avez la chance d'être arrivé au bon moment, on le comprend, mais vous aviez aussi mis toutes les chances de votre côté pour prendre pleinement votre part à cette aventure. Dès votre plus jeune âge, à en croire vos mémoires, en tout cas, vous étiez fait pour ce métier et cette vie. Très très tôt, vous dites, j'ai contracté l'exotite, cette envie, ce goût d'ailleurs, cette envie d'aller loin.
Oui, c'est une plaisanterie évidemment de présenter ça sous la forme d'une maladie.
Oui.
Mais c'est vrai que j'ai été attiré par le passé, comme vous l'avez dit, et attiré aussi par l'ailleurs, l'avant et l'ailleurs.
L'avant et l'ailleurs.
Et j'ai réussi sans plan de carrière, mais je suis parvenu à associer les deux, puisque je suis allé ailleurs chercher l'avant, et les deux ont fonctionné de façon formidable. Ouais. J'aime beaucoup circuler, j'aime beaucoup bouger, et s'il y avait des places sur le prochain voyage pour Mars, mon ami Rocard, Francis Rocard, m'a expliqué que la première tournée autour de Mars n'atterrirait pas, c'était juste pour prendre des photos. Alors je dis bon, on y va.
D'accord, vous étiez partant, vous preniez le billet. Donc très jeune, des rencontres, vous sympathisez avec le conservateur du musée de préhistoire local, à vos anniversaires on vous offre des pièces d'époque lointaine, et on sait comment vous faire plaisir, c'est avec ces pièces de musée. À 10 ans, on vous laisse accéder à la bibliothèque d'une société savante, et à 13 ans, alors là c'est la première grande claque archéologique, le premier choc, vous parlez d'une vraie révélation, c'est sur une plage du Morbihan. Qu'est-ce qui se passe?
Ben vous savez, quand on est attiré par le passé, on se plonge dans les livres, ça va de soi, et on se plonge dans les musées, ça va de soi aussi. Et puis tout d'un coup, un beau jour, le terrain. J'ai été conduit sur le terrain face à une petite falaise qui était bourrée de fragments de poterie. Toute petite poterie, toute mince, toute rouge, criblant littéralement la falaise. Quelle impression, je peux toujours pas la décrire, quoi. J'en ai des frissons, vous voyez.
Ouais. Aujourd'hui encore. C'est quelqu'un qui connaissait votre passion, qui vous emmène sur ce terrain de fouille. Donc, vous voyez des archéologues à l'œuvre. Dès le lendemain, vous revenez avec un mètre à couture, un ruban, piqué à votre grand-mère, avec votre cahier d'écolier. Et ça y est! Vous vous y voyez, vous êtes archéologue, vous voulez mettre la main à la pâte.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a montré où ça se trouvait et comment ça se présentait, bien sûr que je n'ai pas raté le coche, quoi. Et j'étais ce jour-là, le jour où j'ai rencontré ce site avec un monsieur, et le lendemain j'étais évidemment tout seul parce que je voulais un contact personnel avec ces gens d'avant, et puis qu'on puisse avoir une conversation sans gêne, ce que je n'ai cessé d'avoir depuis.
Oui, c'est ça. Tout commence à 13 ans finalement. Alors, il faut dire que dans la région où vous étiez, du côté de Vannes, il y a Carnac, pas loin non plus, avec ces dolmens qui ont de quoi inspirer.
Selon Gustave Flaubert, Carnac a fait écrire plus de sottises qu'il n'a de pierres. Et cela ne manque pas, 3000 menhirs sur 4 kilomètres, bien alignés comme les perles que l'on peut entendre.
Je me demande s'il n'y a pas une grande bataille à coups de cailloux aussi.
Cette accumulation de vestiges mégalithiques excite l'imagination, d'autant que les hypothèses scientifiques sont nombreuses et controversées. Pour tenter de répondre aux interrogations que suscite cette civilisation, de nombreux archéologues fouillent le sol de Bretagne. Sur le site de Locmariaker, quand on découvre les fragments d'un vase, ils ont environ 6000 ans.
Vous allez pouvoir reconstituer ?
On va tenter de reconstituer, mais on a beaucoup de tessons, il en reste encore beaucoup dans la fouille, qui sont en cours de dégagement, et il est tout à fait possible de reconstituer le vase, tout au moins... essayer d'obtenir un profil archéologique, c'est-à-dire pouvoir redessiner la céramique à partir d'une large portion du vase.
Extrait d'un reportage diffusé sur Antenne 2 en 1986. Yves Coppens, ils vous ont passionné, les menhirs et les dolmens de Carnac, et ils vous passionnent encore.
Oui, ils m'ont passionné parce que c'était ma fréquentation habituelle, quoi. Je ne pouvais pas aller me balader... dans ces régions de Carnac et de la Trinité où je passais en général mes étés, sans en croiser. Donc finalement, quand vous croisez des monuments de ce genre en permanence, vous avez une sorte de dialogue avec eux, enfin vous posez des questions forcément. Et dans ces landes, il y a aussi un aspect très romantique, en un sens très poétique. Donc tout ça est lié finalement, c'est le paysage lui-même hein, qui intervient. Et donc aujourd'hui, en effet, j'ai souvent des retours comme ça tout à fait inattendus, c'est-à-dire que au bout de non pas de mon existence, hein, j'espère qu'il y aura un bout plus lointain, mais au bout de ce morceau d'existence, en tout cas, j'ai été convié à présider le comité scientifique international. Vous savez, tous les comités que je dirige sont scientifiques et internationaux. Hein. Donc, comité scientifique international des mégalithes du... Ça s'appelle De Carnac et des rives du Morbihan.
C'est aussi avec ces... Ces dolmens que vous avez éprouvé un grand frisson. Vous étiez étudiant, hein, déjà un peu plus âgé. Et là encore, alors à chaque fois, c'est un mélange de chance et de chance que vous avez su provoquer. Mais vous vous trouvez dans une chambre mortuaire que personne n'avait vue avant vous. Comme vous êtes un des étudiants les plus maigres du lot, vous pouvez vous glisser à l'intérieur.
Oui, bah, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai eu de la chance. Et vous savez, c'est pas... Bien sûr qu'il faut la mériter d'une certaine manière, mais il y a aussi le coup de peau quand même. On tombe dessus ou on tombe pas, quoi. Et il se trouve que pendant mes années d'université à Rennes, avant d'avoir des années d'université à Paris, j'ai été volontaire pour toutes les fouilles possibles et imaginables. Et on s'est rendu en particulier dans un petit tumulus. On ne savait pas que c'était un tumulus d'ailleurs. C'est une petite butte de terre, quoi. Dans une île qui était un peu presqu'île et qui se trouve au bout du nord-ouest du Finistère, au bout du Finistère. La presqu'île s'appelle Carnes. Et donc, ce monument, je fais vite, on l'a mesuré dans tous les sens, puis ensuite on s'est dit, on va faire un trou. Alors, on a fait un trou plutôt vers l'est, parce qu'en général, si c'était un dolmen et c'en était un, ces dolmens sont ouverts vers l'est, on avait des chances d'entrer par l'entrée. Mmh. Et en effet, on est tombé dans une sorte de petit couloir, mais on savait pas que c'était un couloir, et il était barré par quatre murs. Donc on a sondé les murs, trois murs étaient pleins, et un autre mur, au contraire, montrait qu'il y avait autre chose de l'autre côté. Et c'est là, en effet, que sur les quatre, cinq, on n'était pas plus de quatre étudiants, qui étaient là, c'est moi qui étais comme le petit pousset, quoi, tiré au sort. Et c'est moi qui suis entré dans une chambre sépulcrale, somptueuse, en coupole, parce que c'était pas des grosses pierres qui étaient verticales, mais c'était des petites pierres horizontales, placées les unes sur les autres et en encorbellement, c'est-à-dire que l'une dépassait celle du dessous et puis petit à petit, ça finissait par faire une voûte. Ouais. 7000 ans.
7000 ans. Le premier à mettre le pied dans cet endroit.
Ah oui, absolument, le pied
reste. Depuis 7000 ans. Incroyable. Après tout ça, évidemment, on comprend que il n'était pas possible que vous fassiez autre chose que paléontologue, ou vous auriez pu être archéologue aussi. Alors, votre première grande expédition se déroule en Afrique, au Tchad. Vous arrivez là-bas en 1960. Cette terre qui vous faisait rêver depuis tout petit, vous la découvrez pour de vrai. Vos premières impressions, vous en souvenez, la première fois que vous êtes arrivé au Tchad?
Le premier contact avec l'Afrique, il est formidable. Il vous prend à la gorge, au poumon, il vous envahit de lumière, il vous envahit de chaleur, il vous envahit de couleurs, il vous envahit de senteurs. Ouais. Et je dois dire que, comme j'aime bien les gens, mais vraiment, j'aime bien les gens, c'est-à-dire que pour moi, ça a été un souffle d'un pays, d'une terre, d'une température, d'une atmosphère, mais en même temps de gens. Et en un sens, je serais triste d'aller sur Mars, j'y reviens, vous voyez.
Oui, décidément, parce c'est une
personne,
obsession.
Il n'y a personne. Oui, il vaut mieux que j'aille voir d'ailleurs, s'il n'y a personne.
Ah, d'accord.
Mais ça, c'est un peu embêtant.
Alors, ce n'était pas les Martiens que vous y étiez allé chercher au Tchad, mais c'était plutôt les éléphants qui vous intéressaient à cette époque.
Oui, c'est-à-dire que j'étais devenu spécialiste, en effet, de ce groupe de mammifères. Et c'est un groupe extrêmement intéressant, parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas juste l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie, mais il y a beaucoup d'espèces. Et comme il y a beaucoup d'espèces, elles évoluent. Et comme beaucoup d'espèces qui évoluent, ça devient des marqueurs. Autrement dit, vous trouvez un chicot de dents, je ne plaisante pas, hein, un chicot de dents d'éléphant, je vous dis l'âge de la couche qui le contenait, quoi.
Ouais. Alors, c'est en Afrique hein, que vous allez faire vos plus belles découvertes qui vont contribuer à repenser l'histoire des origines de l'homme. Vous allez nous raconter vos expéditions, le terrain et vos plus belles découvertes. Yves Coppens est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Dis-moi où est-ce que tu m'envoies, ou laissez-moi.
C'était Aléa de Delgrèce sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Voici l'Omo, la rivière des Nyangatom. Elle coule du nord au sud. Elle prend naissance dans les montagnes d'Éthiopie. Elle boit les pluies d'Éthiopie. Et pour les Nyangatom, cette rivière, c'est la vie. C'est l'eau qu'ils boivent, c'est le poisson dont ils se nourrissent. C'est la rivière qui imprègne leur jardin et qui fait jaillir le mil. Et c'est aussi la rivière qui leur indique la voie contraire, la voie perpendiculaire à celle du soleil. Et d'ailleurs, les Nyangatom ont deux rivières. Ils ont l'Omo et ils ont la voie lactée. Deux rivières, deux grandes longitudes que croise chaque jour la course du soleil. L'Omo et la voie lactée, c'est le même nom. Angalol, rivière. Pour eux, l'univers se rejoint.
Une voix que vous devez reconnaître, Yves Coppens, celle de Serge Tornet, ethnologue en 1970. Il vous accompagnait dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie. Cette vallée, c'est la deuxième grande étape de notre bivouac avec vous, Yves Coppens, à l'occasion de la parution de vos mémoires « Origine de l'homme, origine d'un homme » aux éditions Odile Jacob. Alors, après le Tchad, où nous sommes passés brièvement, vous y avez passé plus d'une dizaine d'années, vous commencez en parallèle des fouilles en Éthiopie. Pourquoi ce pays, pourquoi cette région? Comment, en fait, vous savez où il faut aller fouiller?
Ben, en fait, parce qu'il y a eu des gens qui m'y ont précédé, hein, et qui y ont trouvé des choses. Mais vous savez, c'est toujours l'occasion qui fait le larron. Quelquefois, je dis l'occasion qui fait le copain.
Mais comment ça se passe, l'expédition sur le terrain? Quand vous arrivez, alors à cette époque, hein, vous n'avez pas encore de GPS, vous avez des cartes, vous êtes équipé comment? Comment on travaille concrètement dans le pays une fois qu'on a lancé l'idée de l'expédition?
Ben écoutez, il y a les cartes et puis il y a le pif, quoi. Et le pif, c'est le soleil sur les étoiles, etc. Je ne plaisante pas, hein, parce que les cartes, si vous voyez les cartes dont on disposait, surtout le nord du Kenya, en général, n'existait pas. Les cartes s'arrêtaient très au sud, parce que c'était région dite inexplorée, ça ne l'était pas véritablement. Ouais. Mais c'était des régions que l'on n'abordait pas sans problème, sans risque, et sans audace. Et en l'occurrence, les cartes que l'on avait, c'était des cartes au millionième. Millionième, c'est pas beaucoup. Et des feuilles au 200 millième. Alors les feuilles au 200 millième, c'était des minutes photogrammétriques, c'est-à-dire c'était des photos prises du ciel avec lesquelles on avait fait de vagues dessins, des rives, des rivières et des lacs, et puis en même temps des reliefs, ouais. Et c'est tout. Mais ça n'a pas d'importance. On se dirige très bien partout sur la Terre, et moi je n'ai jamais été perdu. Enfin, je ne veux pas être prétentieux, mais je n'ai jamais été perdu. Jamais été perdu.
Ah oui.
Que ce soit dans le désert ou dans la savane, ça ne m'a jamais tracassé d'ailleurs, jamais inquiété. Mais...
Ouais. Alors il faut aussi beaucoup de patience et de minutie sur le terrain, comme on s'en aperçoit en écoutant l'un de vos compagnons d'expédition, Jean-Jacques Yeager, qui vous accompagnait toujours dans cette vallée de l'Omo en Éthiopie. Nous sommes en 1970 sur l'ORTF.
Vous semblez être de ceux qui cherchent une aiguille dans une botte de foin, non ?
Oui, à peu près. C'est-à-dire que vous voyez que je suis en train de laver du sédiment. Sédiment qui a été récolté à quelques kilomètres d'ici.
Il a quel âge ce sédiment, excusez-moi ?
Quel âge ? Environ 2 millions d'années.
D'accord.
Il est trempé, donc pendant un certain temps, dans ces cuvettes avec de l'eau, où les argiles se défloculent, vous voyez, ça se décompose entièrement. Mmh. Ensuite, il est tamisé. Et nous recueillons dans le tamis les grains et les granules, en l'occurrence du gravier, qui contient également quelques petits ossements de mammifères.
Vous en trouvez beaucoup ?
Non, dans ce niveau-là, et en général pour l'Omo, les petits mammifères semblent être relativement rares.
Qu'est-ce que vous cherchez exactement ?
Exactement les dents de micro-mammifères.
Vous trouvez votre dent de rongeur, vous avez passé vos cribles combien de kilos de boue ?
Je compte tamiser 50 sacs de 20 kilos, ce qui fait à peu près une tonne de sédiments.
Tous ces sacs de sédiments retournés pour trouver les dents, les éventuelles dents de petits rongeurs. Le journaliste de l'ORTF a l'air un peu sceptique sur l'entreprise. Pourquoi se donner tout ce mal, Yves Coppens ?
Ben, tout simplement parce que les dents de rongeurs, au même titre que les restes plus importants que l'on peut, importants dans leur proportion, dimension, que l'on peut retrouver, sont des informations sur le lieu, sur l'endroit, sur le climat, sur l'environnement, sur l'époque, sur des quantités de choses. Par exemple, le fait qu'on ait trouvé des rongeurs dans les couches plus anciennes de l'Homo, et que ces rongeurs soient de certaines espèces, ça voulait dire que le territoire était humide, et puis dans les parties plus récentes, que le territoire était devenu sec. Or, le passage de l'humide au sec, c'est pas rien du tout. Ouais. C'est l'origine de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme est apparu. Ouais. Donc, vous voyez que les rongeurs ont aussi leur importance.
Alors là, on est en train de mettre le doigt sur ce qui vous a passionné dans cette vallée de l'Omo. Vous êtes rendu compte que le climat avait beaucoup changé au cours des derniers millions d'années dans cette région, et que aussi bien les animaux et aussi l'apparition de l'homme étaient liés à ces changements climatiques.
Oui, vous savez, la science est simple. Il suffit de l'analyser proprement, et elle se révèle à vous. Moi, c'est toujours ce qui m'a paru magique. Dans la science, c'est la manière dont les choses apparaissaient, les choses se reliaient les unes aux autres, et ça donnait finalement un ensemble cohérent. Mmh. Or là, vous êtes imaginé devant une falaise, c'est pas tout à fait ça, mais presque, de près de 1000 mètres de hauteur. Dans cette falaise, il y a des fossiles partout. Ces fossiles, vous vous rendez compte, chose simple, que ceux d'en bas ne sont pas ceux d'en haut. Donc au cours des 1000 mètres, ils ont changé. Mmh. Et comme la base est autour de 3 millions d'années et que le sommet est autour d'un million d'années, ça veut dire qu'entre 3 et 1 million d'années dans ce coin-là, le climat a changé. Mmh. Et ce climat, bien sûr, les rongeurs dont on vient de parler, par exemple, sont des informations très précieuses pour lire ce climat. Or, de manière très aussi simple, comme on trouve parmi les restes d'animaux des restes d'hommes et de préhommes et de préhumains, et que l'on voit que les préhumains précèdent les humains, ça va de soi, mais qui sont dans les parties humides plutôt, alors que les humains sont plutôt dans les parties sèches, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on passe du préhumain à l'humain, par une nécessité, c'est l'adaptation à un climat beaucoup plus sec. Et tout d'un coup, ça devient une grande découverte, quoi. Ça devient la raison pour laquelle l'homme est apparu, quand même, c'est pas rien. La raison pour laquelle l'humanité est apparue. Ouais. J'insiste parce que c'est passé assez inaperçu. Au début, tout le monde en plaisantait. On m'a dit non, tu es déterministe. Non, non, il faut faire des statistiques pour voir si c'est vrai. Et puis, les copains américains ont bien compris. Ils m'ont dit, on va mettre des thèses là-dessus tout de suite. Ouais. Et puis, depuis, c'est devenu une vérité tout à fait classique, banale, que tout le monde a admis depuis longtemps. Oui. Ouais.
Alors, en Éthiopie, c'est aussi, alors pas dans la vallée de l'Omo, hein, dans une autre région d'Éthiopie, que vous avez fait la découverte qui vous est associée, pour laquelle on vous connaît le plus. Peut-être que vous en avez d'ailleurs assez, qu'on vous parle de ce petit personnage, comme vous dites, c'est Lucie. Alors, dans quelles conditions vous avez, avec vos équipes, découvert Lucie?
Eh bien, l'histoire de l'Afar, c'est à 1000 km quand même. C'est aussi en Éthiopie, mais c'est à 1000 km de l'Omo dont on vient de parler. C'est l'histoire d'un géologue. Un géologue qui s'appelle Maurice Taïeb, qui est un ami, un collègue, et qui a trouvé un beau jour un morceau de quoi ? D'éléphant, un chicot dedans d'éléphant.
On y revient. Voilà.
Et le chicot dedans d'éléphant m'a permis de lui dire que ça signifiait un terrain entre 2 et 3 millions d'années. Et donc, je l'ai poussé, incité, encouragé à poursuivre son regard. Il m'a apporté d'autres fossiles. Finalement, on a mis sur pied une expédition en 72. Et dès 73, on avait des restes de préhumains, c'est-à-dire des restes de ce que nous avons appelé Australopithecus afarensis.
Mmh. C'est pas encore Lucie, hein. Là, ce sont d'autres Australopithèques.
Oui, c'est clair.
Claire, le genou de Claire.
Voilà, c'était un genou. C'était, enfin, comme vous l'imaginez, un petit bout de fémur, un petit bout de tibia. Comme le fémur s'articule sur le tibia, ça finit par faire un genou. Et le genou me paraissait féminin, et je l'avais appelé joliment le genou de Claire. Ouais. Et puis la pauvre Claire a eu une vie un peu courte, parce que Lucie l'a remplacée très très vite, parce que l'année suivante, 1974, on lui trouvait juste un genou, qu'on a trouvé aussi. On a trouvé beaucoup d'autres restes, puisque le total de restes déterminables, c'était 52 ossements d'un même individu. On n'avait jamais trouvé ça. Et tout d'un coup, la découverte d'un même individu, en tout cas de tant d'ossements d'un même individu, ça voulait dire qu'on en connaissait la taille, ça veut dire qu'on pouvait estimer le poids, ça veut dire qu'on connaissait les articulations, donc les gestes, les comportements, donc avec les comportements, l'environnement, enfin tout d'un coup, ça élargissait la découverte à beaucoup de choses.
Ouais. Alors on comprend que c'est beaucoup excité les scientifiques, mais pas seulement les scientifiques. Le public, les médias se sont enthousiasmés pour cet Australopithèque.
Le plus ancien spécimen de cette préhumanité, c'est ce squelette, la plus vieille dame du monde.
Donc elle a un nom charmant, cette femme.
Alors oui, il faut vous dire qu'elle s'appelle Lucie.
Yves Coppaz, vous êtes anthropologue. Vous êtes co-découvreur, je voudrais le rappeler
avec plaisir. En 4 mois, la petite cousine Lucie a eu 100 000 admirateurs.
Et il est aussi le co-inventeur du plus vieux squelette que l'on ait jamais découvert parmi nos ancêtres, Lucie.
Elle a 3 millions d'années et on peut la rencontrer au Musée de l'Homme à Paris.
Aujourd'hui, Lucie, l'Australopithèque, est plus connue presque que la chanson des Beatles à laquelle elle doit son nom, Yves Coppens. Vous vous attendiez à un tel engouement du grand public ?
Non, pas du tout. D'autant plus qu'on nous a dit sur le terrain, c'était évidemment un coup de pub. Pas du tout. Imaginez 30 jeunes gens, on avait quoi entre 25 et 45 ans, quoi. Ouais. Moi, j'en avais 40, juste. On travaillait, on trouvait des choses, on était très enthousiastes et on était loin de penser à lancer un coup de pub du terrain, bien sûr. Et on a été très surpris lorsque la première agence qui s'en est emparée à Addis Abeba, en notre absence, on était sur le terrain, a dit les jeunes qui travaillent sur cette expédition viennent de faire une grande découverte, la découverte d'un squelette qu'ils ont appelé Lucie, car Lucie vient du latin lux, lux veut dire lumière, et ils sont éclairés sur leurs origines, sur nos origines. Jamais on a pensé à pareille chose sur le terrain, jamais. C'était beaucoup plus anecdotique que ça et plus joli finalement.
Oui.
Que ça.
On poursuit notre voyage dans le passé de l'humanité, dans les souvenirs d'Yves Coppens, invité du temps d'un bivouac sur France Inter.
Max.
Smooth Operator, c'était Shadé sur France Inter.
Aujourd'hui, un obstacle s'est présenté sur leur chemin. Un obstacle que Lucie n'a jamais franchi. Les Australopithèques ne savent pas nager, mais les anaminsis ont appris à traverser les rivières en suivant les autres animaux. Lucie sent ses forces à l'abandonner et elle espère qu'ils renonceront. Elle ne veut plus être seule. Son enfant ne survivra pas. Mais Lucie a les jambes trop courtes et trop lourdes. Elle ne peut pas résister au courant. Le corps de Lucie s'est déposé dans le lit d'un fleuve d'Éthiopie et y est resté jusqu'à ce qu'on la retrouve.
Extrait de l'Odyssée de l'espèce, film de Jacques Malaterre, un documentaire qui va battre tous les records, diffusé en prime time sur France 3. 9 millions de téléspectateurs ont assisté à la noyade de Lucie. Ce documentaire, c'était l'une de vos idées, Yves Coppens?
Oui, depuis longtemps, oui. Vous savez, c'est tout simple, c'était pas de la jalousie, mais j'avais un copain anglais qui avait fait un film, et puis ensuite un copain américain qui avait fait un film. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Parce que j'ai aussi mon idée, qui n'était pas celle de Richard Dickey, pas celle de Donald Johnson, sur l'évolution de l'homme. Donc, pourquoi pas aussi la présenter? Donc, j'avais écrit un petit synopsis que j'avais présenté à quelques personnes, sans beaucoup de succès. Puis, un beau jour, ça a explosé, parce que c'est tombé entre les mains de quelqu'un à qui ça a plu. Et puis, de main en main, c'est arrivé à une production, et puis finalement à aussi un réalisateur, Jacques Malaterre, qui est devenu un très bon ami. Et on s'est amusé beaucoup à faire ce grand film. Et évidemment, c'est de la fiction en grande partie, mais c'est quand même, ça s'appuie sur tout ce que l'on sait, tout ce que la science nous a appris, mais il reste beaucoup de choses à apprendre. Et il y a des gens qui ont été si pris qu'ils m'ont dit, au moment où justement la petite Lucie se noie, qu'ils m'ont dit on a pleuré. Donc ça veut dire que ça marchait bien sur le plan, au moins, de la dramaturgie, quoi, si je puis dire.
On sait ce qui lui est arrivé à cette petite Australopithèque, Lucie. On sait qu'elle s'est noyée, ça on le sait. On a compris ce qui s'était passé.
C'est-à-dire qu'elle se trouve dans un milieu lacustre, dans un sable lacustre. Pas fluviatile, d'ailleurs, contrairement à ce qui est dit dans le film. Et c'est pour ça qu'elle est un peu moins incomplète que les autres, parce que le sable lacustre, enfin, les bords du lac sont moins turbulents que les bords d'une rivière, ça va de soi. Mmh. Et par ailleurs, on a cru y déceler, avec un collègue et ami qui s'appelle Philippe Charlier, on a cru y déceler des traces de dents de crocodile. Donc elle a été plus volontiers mangée ou vivante ou plus volontiers.
Donc le scénario de Jacques Malaterre aurait pu être encore plus terrible.
Oui, on peut arranger ça. Oui. Et puis certains Américains, il n'y a pas longtemps, ont dit qu'elle était tombée d'un arbre, mais ça ne marche pas non plus.
Ouais, c'est une vraie enquête policière, hein, ce qui se passe avec cette Lucie.
C'est une vraie enquête,
c'est la pauvre. Alors, Yves Coppens, vous n'êtes pas seulement parti sur les traces des premiers hommes en Afrique. En 1999, vous êtes parti avec l'explorateur Bernard Buig chasser le mammouth congelé en Sibérie.
Voilà, ça y est, on est arrivé.
Oui, on est arrivé dans cet endroit qui s'appelle Bolshoï Balartia. C'est près d'une petite rivière. On est à 200 km au-dessus de la dernière forêt primaire. On est ici en pleine toundra, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'arbres qui poussent, il n'y a que du lichen, des mousses, des herbes rares. Et ça fait à peu près une heure qu'on survole ce paysage. C'est là que se trouve le mammouth qu'on a trouvé, enfin que les Jarkoff ont trouvé, et qu'on va finir par excaver là dans les jours qui viennent.
Changement de décor et de climat pour une nouvelle aventure. Alors on retrouve des mammouths dans un excellent état de conservation dans le sol gelé de Sibérie. Et vous vous êtes retrouvé dans cette aventure d'aller déterrer les mammouths, Yves Coppens.
Oui, c'est formidable.
Ouais.
Enfin, dès que j'en ai eu l'occasion, enfin, vous avez bien compris, hein, quand l'occasion m'est offerte, je ne la laisse pas passer. Et en effet, pour moi, c'était extraordinaire, parce que je venais de passer des dizaines d'années à ramasser des ossements et des dents, et tout d'un coup, j'avais affaire à des cadavres. Ouais. Alors évidemment, les cadavres n'avaient pas des millions d'années, ils avaient quand même plusieurs dizaines de milliers d'années, certains plus de 50 000 ans probablement, et ils étaient là avec leur corps, avec leur peau, leurs poils, leurs organes, leurs muscles. C'était très impressionnant. Et j'y suis allé donc sous la conduite de Bouygues. Et j'ai beaucoup aimé ces grandes étendues de la toundra qui s'étendent jusqu'à l'océan glacial arctique, quoi. Ouais. C'est immense, c'est merveilleux. Enfin, je suis un homme plutôt des grands espaces, tels le Sahara, tels la savane, ouais, tels la steppe, tels la toundra, plutôt que des forêts d'une part, ou plutôt que des montagnes d'autre part. Ouais. Mais j'ai un peu plus souffert dans les climats froids que dans les climats chauds. Lorsque vous avez votre petit déjeuner à la porte de la tente et qu'il fait moins 20, vous avez de la peine à avoir un café chaud, mais ouais, on y arrive. On y arrive.
Alors, il y a le café chaud difficile à avoir, et puis le mammouth aussi congelé, c'est dur à avoir. Il a fallu attaquer le permafrost, ce sol gelé de Sibérie, à coups de marteau-piqueur, ouais, pour dégager une sorte de gigantesque cube de glace dans lequel se trouvait ce mammouth.
Oui, ça m'amuse beaucoup de raconter ça, parce que, vous savez, les gens ont juste raison. Imagine les fouilles, ce qui n'est pas fou, hein, comme étant le dégagement de sol ancien avec de très petits outils, oui, genre brosse à dents. Et là, pour dégager le mammouth, c'était d'abord du marteau-piqueur. Et pour ensuite dégager ses os un à un, c'était le sèche-cheveux.
Oui, ça, l'outil, c'est le sèche-cheveux. Pour décongeler le mammouth, c'est le plus efficace. Qu'est-ce qu'on a pu faire raconter à ce mammouth ?
Bah écoutez, beaucoup de choses. D'abord, le milieu dans lequel il se trouvait, parce que dans le permafrost, c'est non pas de la glace, mais c'est du sol gelé. Autrement dit, le sol est aussi ancien que le mammouth, ça va de soi. Et le sol lui-même contient des quantités de choses. Il contient des restes de plantes, des graines, des fleurs. Il contient des restes d'animaux, de petits insectes, d'arthropodes, des histoires de ce genre très variées. Aussi des empreintes de feuilles et de fleurs parfois. Et d'autre part, le mammouth est si bien conservé que parfois on en trouve l'estomac. Et on a trouvé une partie de l'estomac, non pas de celui-là, qu'on appelle Jarkov, ça a été dit dans votre morceau recueilli, là. Mais on a trouvé un autre reste de mammouth dans lequel, en effet, l'estomac était conservé.
On sait ce qu'il avait mangé.
Alors l'estomac, on connaît son dernier repas, en tout cas. Ouais. Et il avait déjà digéré une partie de l'herbe, ça faisait une sorte de magma, c'était pas très brillant. Mais par contre, il restait encore beaucoup de feuilles non encore digérées, qui ont permis de replanter le paysage de l'époque. Ouais. Et le paysage de l'époque ressemblait plus à une steppe, ce qu'on appelle la steppe à mammouth d'ailleurs, avec de petits arbres, probablement les longs des pièces d'eau et le long des petites rivières, plutôt que de la toundra, ouais, c'est incontestable.
C'est ce qui s'appelle faire revivre le passé au sens propre.
Oui, mais au sens propre, comme vous le dites, puisque une collègue russe a même réussi à faire repousser ces plantes fossilisées de 30 000 années.
Il a les cheveux gris.
Et une barbe blanche.
Une barbe grise.
Ouais.
Les cheveux blancs gris.
Non, gris. Il a 82 ans.
Il a 70 ans.
Il a 82.
En fait, Hippopète, il a trouvé Lucie.
Australopithèque.
Dans l'eau.
Il a retrouvé sur la plage.
1m20.
Elle s'est noyée, elle s'est fait.
Ça savait pas nager.
Il est très intelligent.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Il a eu plein de médailles.
C'est un paléontologue.
C'est un paléontologue.
Paléontologue. Ça fouille dans la terre pour trouver des os.
Il a trouvé Lucie un mammouth glacé.
Un mammouth glacé.
Les enfants d'une école primaire interrogés pour le documentaire Empreintes que vous a consacré France 5, Yves Coppens. Vous publiez vos mémoires aux éditions Odile et Jacob, Origine de l'homme, origine d'un homme. Vous qui avez toute votre vie eu à cœur de partager, de transmettre, ça doit vous toucher, ces enfants qui s'enthousiasment sur vos découvertes, sur votre personnalité.
Ah, c'est formidable. Moi, Évidemment, je fais des conférences beaucoup. Je fais des conférences pour tous les publics. J'aime beaucoup les gens, quels qu'ils soient. Donc, je vais d'une association à une université et d'une académie à une école primaire. Mais la réaction des petits est merveilleuse, parce que d'abord, ils sont émerveillés au sens propre, quoi. Ils ont les yeux tout ronds quand on leur raconte des histoires. En plus, je raconte des histoires en apportant toujours des objets réels. Donc, ils peuvent patouiller les objets, se les passer entre eux, etc. Et d'autre part, leurs questions sont toujours très pertinentes, inattendues, drôles. Un jour, j'étais dans une école au premier étage, non, au deuxième étage, je crois, deuxième étage. Et donc, aux enfants, je leur raconte l'histoire d'un dinosaure. Et je leur dis, ce dinosaure, vous ne pouvez pas le rater, il a un nom superbe et facile à retenir, il s'appelle Supersaurus. Et je leur dis, s'il est là dans votre cours, s'il est sous votre vitre, là, sous votre classe, dans votre cours, il est tellement grand que son cou passe devant la fenêtre et que sa tête est au-dessus. Bien, toute la classe s'est penchée pour voir la tête. Et dans le cerveau de ces petits, sûrement qu'ils l'ont vu.
Qu'est-ce que vous pensez que l'enfant que vous étiez, que l'on évoquait en début d'émission, ce passionné d'histoire, d'exotisme, qu'est-ce qu'il penserait de ce parcours, de votre parcours?
Ça, je n'y ai pas pensé, vous voyez. Ben, je suppose que il en serait envieux. Alors, je ne sais pas s'il en ferait son modèle, mais dans une certaine mesure, ce n'est pas impossible, au moins en partie, quoi. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que un certain nombre de gens, de jeunes gens, de moins jeunes gens, ont, d'après ce qu'ils disent, suivi certaines de mes traces, je ne veux pas dire que je sois un modèle en tout, hein, mais certaines de mes traces et que certains livres les ont inspirés au point qu'aujourd'hui ils sont devenus, pour certains d'entre eux, paléontologues professionnels. Mmh. Professionnels. Ils en ont fait véritablement leur métier.
Quelle est la découverte, l'avancée scientifique que l'on vous doit et dont vous êtes le plus fier, la chose que vous voudriez que l'histoire des sciences retienne?
Ben, sûrement celle qui est la moins éclatante, l'origine de l'homme. Le fait que l'homme, au même titre que les animaux qui l'entourent, doit son existence à la transformation, à l'adaptation, à la nécessité pour un préhumain de s'adapter à un changement climatique, en l'occurrence de s'adapter à un assèchement du climat. Et ça, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour moi une grande percée, parce que c'est mettre d'abord l'homme au niveau de tous les animaux qui l'entourent, et puis montrer que notre origine est tout à fait banale, en quelque sorte, tout à fait naturelle et banale, et qu'ensuite c'est un développement pirate, un usage pirate de notre cerveau, un usage pirate de notre respiration, qui a fait qu'on a eu le langage articulé au lieu de l'avoir modulé, puis qu'on a eu un niveau de conscience bien au-dessus des niveaux des animaux, mais c'est vraiment un usage secondaire d'une sélection naturelle.
Je rappelle le titre de vos mémoires parus chez Odile Jacob, Yves Coppens, Origine de l'homme, origine d'un homme. Merci Yves Coppens d'être passé par notre bivouac.
Merci.
Restez avec nous. Dans un instant, nous repartons pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, Éric Birloez nous emmène déguster des mangues.
missile, a distant fireball. The sun is us, the sun is us. A dream of love, of two hearts mystified. A dream of hate, anger 365. All hearts dancing around the fireball. The sun is us, the sun is us.
Like a Human, General Electric sur France Inter, et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Muriel Pérez.
Sens-moi ça, ça sent bon, ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Bonjour Eric Birloez.
Bonjour Daniel.
Alors je rappelle que vous êtes sociologue de l'alimentation et que vous nous accompagnez tout l'été pour des odyssées savoureuses. Et aujourd'hui, vous nous emmenez sur quelle route, de quel aliment ?
Eh bien, je vous propose de m'accompagner sous le soleil et la chaleur des tropiques pour cueillir à même l'arbre le fruit exotique dont la production est aujourd'hui la plus élevée du monde, après la banane, dans la catégorie fruits exotiques. Alors, il s'agit d'un gros fruit charnu à la pulpe jaune-orangée, juteuse, sucrée, délicatement parfumée, vous avez reconnu la mangue. Les quantités récoltées ont été multipliées par 3 au cours des 40 dernières années. En France, la mangue était quasiment inconnue jusque dans les années 1970 et toujours considérée comme un produit de luxe durant les 20 ans qui ont suivi son introduction dans notre pays. Mais depuis 20-25 ans, la mangue est devenue courante sur nos étals de fruits.
Alors elle vient des tropiques, on l'a bien compris, mais plus précisément.
Un petit retour vers le passé. En 1544, Antonio Galvão, le gouverneur portugais des îles Moluques, un archipel de l'Indonésie actuelle, qualifiait déjà les fruits du manguier de, je cite, « délicieux et juteux avec un gros noyau ». Mais en réalité, ça n'est pas aux Moluques, mais en Inde, qui est le véritable berceau du manguier, que les navigateurs portugais ont dégusté ce fruit pour la toute première fois. Cette découverte de la mangue par les Européens avait été réalisée dans le sillage de l'expédition de Vasco de Gama en 1498. Vous vous rappelez, ces caravelles étaient parvenues à atteindre l'Inde par la mer après avoir contourné le sud du continent africain.
Et pour revenir à la mangue, quelle est l'origine du nom de ce fruit ?
Eh bien, là encore, ce sont les Portugais qui donnèrent à l'arbre le nom de manga, mais à partir du mot tamoul, mangue, caille. En Inde et dans toute l'Asie du Sud, le manguier fait l'objet d'une grande vénération depuis longtemps, de la part des hindous et des bouddhistes. C'est en effet sous un manguier que le Bouddha réalisa un miracle célèbre. Et c'est l'expansion du bouddhisme, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a favorisé la propagation du manguier en Chine et dans les autres pays d'Extrême-Orient.
Mais les voyages du manguier ne se sont pas arrêtés là.
Non, les colons portugais ont transporté des plants de manguier en Amérique du Sud, mais plusieurs siècles avant eux. Les Arabes avaient déjà introduit des manguiers sur les côtes orientales de l'Afrique et au Moyen-Orient. Au 19e, on trouvera également des manguiers aux Antilles, en Amérique centrale, en Floride, en Californie. Et aujourd'hui, les manguiers sont cultivés dans toutes les zones tropicales et subtropicales de la planète.
Et au fait, il ressemble à quoi ce manguier ?
Eh bien, c'est un grand arbre, au port imposant, majestueux. Il peut atteindre 30 mètres de hauteur et 10 bons mètres de circonférence. Il a un feuillage abondant qui procure une ombre bienfaisante. Ce qui explique qu'il ait été choisi pour orner les rues et les places de nombreuses villes tropicales, comme par exemple la ville de Belém au Brésil, qui est d'ailleurs appelée la cité des manguiers.
Et quels sont les plus grands producteurs de mangue aujourd'hui ?
L'Inde est de très loin le leader mondial de la production de mangue. En 2019, c'était 46% du volume total. Une mangue sur deux était indienne, mais la quasi-totalité des fruits récoltés en Inde sont consommés dans le pays. Les autres grands producteurs, ce sont la Chine, la Thaïlande, le Mexique, le Brésil. Et puis en France, parce que ce sont des fruits fragiles, eh bien les mangues de nos étals ont presque toujours voyagé en avion, donc en émettant beaucoup de CO2. Et leur production a consommé beaucoup d'œufs. C'est pas le fruit le plus écologique.
Bon, alors il faut peut-être le consommer avec modération, mais si quand même on est tenté par une mangue, comment on choisit sa mangue ?
Eh bien, il faut savoir que la couleur de la peau, verte, jaune, orange ou rouge, n'est en rien un indicateur de la maturité du fruit. Certaines variétés peuvent rester vertes alors qu'elles sont mûres. Cette maturité, elle s'apprécie en fait au toucher. Le fruit doit être souple, mais pas mou. Mais on peut aussi acheter des mangues encore fermes. Elles finiront de mûrir dans la corbeille de fruits. En revanche, une fois la mangue mûre, il ne faut pas tarder à la manger, car son goût peut devenir désagréable. Vous savez, Daniel, cette saveur d'essence de térébenthine, pas terrible.
Ah oui, effectivement, ça n'a pas l'air terrible. Et comment alors la déguster quand elle est à point, cette mangue ?
Le plus souvent, on la consomme en dessert, nature, en salade de fruits, en sorbet ou encore en coulis pour napper un yaourt ou un fromage blanc. On l'utilise aussi beaucoup en pâtisserie pour parfumer des mousses, des bavarois, des tartelettes, des charlottes, des cheesecakes, des muffins, etc., etc. Mais on peut aussi associer la mangue avec de la viande ou de la volaille, magret de canard ou poulet ou viande de porc sauté au wok. Elle peut, cette mangue, accompagner le poisson ou les fruits de mer, un cabillaud rôti aux mangues caramélisées, une salade exotique au haddock et aux mangues, c'est très très bon. À l'île de la Réunion, une des spécialités créoles traditionnelles est le rougail à la mangue verte, une préparation froide et pimentée qui accompagne les grillades de viande et de poisson.
Ça doit être absolument délicieux. Merci Éric Birloez. Je précise que vous avez récemment publié « Petite et grande histoire des légumes » aux éditions Quae. À lundi prochain Éric.
À lundi, Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.